Éric Bataillon.
Bonjour, le blues des jeunes Palestiniens dans les camps de réfugiés, ou comment se sentir bien dans un environnement familier mais hostile. Entre droits sociaux réduits et méfiance des populations locales, la sortie hors du camp prend souvent l'allure d'une expédition. Mais la découverte du monde libre est souvent indispensable pour se projeter dans la vraie vie, avoir l'espoir de partir pour un ailleurs meilleur. Un ailleurs qui est rarement la Palestine idéalisée, mais plus souvent l'Europe ou les Émirats du Golfe. Exemple au Liban, avec de jeunes Palestiniens du camp de Nahr el-Bared, près de Tripoli. Les femmes qui travaillent sont une minorité dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Pourtant, certaines d'entre elles réussissent une vie professionnelle et dirigent parfois leur entreprise. Reportage et témoignage avec Ariane Gafuri du service économie de RFI. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Il se balade en jean ou en short de bain, lunettes de soleil sur le nez et portable à la main. Ces jeunes à Beyrouth, Tripoli ou Saïda ressemblent à tous les jeunes gens qui déambulent l'été sur une plage de sable fin dorée par le soleil. Sauf que ces jeunes vivent dans des camps de réfugiés palestiniens au Liban. Bonjour Nicolas Puy.
Bonjour.
Anthropologue à l'IRT, l'Institut de Recherche pour le Développement. Vous avez suivi un certain nombre de ces jeunes gens hors les murs, autrement dit hors du camp dans lequel ils sont assignés à résidence, notamment à Tripoli, la grande ville du nord libanais. Alors en quoi sortir du camp constitue-t-il quelque chose d'extraordinaire pour ces jeunes ?
Sortir du camp n'est pas une expérience extraordinaire, puisque c'est quelque chose qui prend place, disons, dans des mobilités quasi quotidiennes. Mais sortir du camp est toujours une expérience particulière. Car on sort de l'entre-soi, on sort d'un milieu relativement protégé, on quitte la densité relationnelle du camp où tout le monde se connaît, pour d'autres espaces qui sont des espaces d'altérité, des espaces de la différence, qui sont des différences de nationalité bien sûr, entre Palestiniens et Libanais. Depuis 1948, les Palestiniens sont au Liban et ont conservé leur statut de réfugiés. Et puis également d'autres types d'expériences qui sont celles de la modernité consumériste, bourgeoise que proposent certains quartiers, ou encore l'expérience de la différence religieuse, c'est-à-dire qu'on est au contact de chiites ou de chrétiens ou d'autres communautés religieuses.
Ces jeunes souvent sont nés dans le camp, de parents qui eux-mêmes sont très souvent nés aussi dans ce camp. Pourtant, ils n'ont pas la nationalité locale.
Non, ils n'ont pas la nationalité locale, ils ne demandent pas. Ce qu'ils demandent, ce sont des droits sociaux, c'est-à-dire le droit au travail, le droit de posséder et de transmettre une propriété à l'extérieur du camp, le droit à la sécurité sociale libanaise, à une protection de santé, une forme de reconnaissance de leur présence au Liban, puisque c'est effectivement, comme vous l'avez dit, non seulement la troisième, mais maintenant la quatrième génération, tout le monde est né dans le camp, les grands-parents sont nés dans le camp, et ce camp représente pour eux réellement un espace, disons, identitaire très fort, très puissant, à tel point que quand les réfugiés ont la possibilité de voyager, d'acquérir une autre nationalité, ce n'est pas vers la Palestine qu'ils vont se tourner, mais la première chose qu'ils feront, c'est revenir au Liban, revenir dans le camp d'origine et éventuellement acheter une propriété foncière dans la ville à côté, comme par exemple à Tripoli.
Alors vous parliez de la situation sociale de ces jeunes, de ces personnes qui sont dans les camps, vous voulez dire qu'ils n'ont pas les mêmes droits que l'environnement bien que né sur place ?
Non, ils ont une situation qui est tout à fait particulière. Ils n'ont pas accès à tout un tas de professions, depuis de l'administration, chauffeur de taxi, médecin, etc. Et puis, en dehors de ça, disons qu'ils sont, ils font l'objet d'une certaine mise à distance ou mise à l'écart ou stigmatisation. La guerre est passée par là. Ils souffrent d'une certaine, effectivement, stigmatisation de la part de la population libanaise en tant que réfugiés palestiniens, toujours soupçonnés de vouloir attenter à la stabilité libanaise ou d'abriter dans les camps des caches d'armes et des terroristes.
Malgré tout, Nicolas Puig, est-ce qu'il se crée des rencontres, voire une osmose entre ces jeunes palestiniens et la population locale lorsque les jeunes vont dans les quartiers, notamment à Tripoli, pour faire leurs emplettes, par exemple?
Il y a beaucoup de liens dans différents milieux, comme dans le milieu artistique, bien sûr. Les choses ne sont pas aussi tranchées, mais si on prend les habitants de Nahr el-Bared, les jeunes, quand ils sortent dans la ville de Tripoli, je dirais que c'est pas une osmose qui va se créer, c'est des formes de relations maîtrisées. qui sont des civilités urbaines, c'est-à-dire que sortant à 3 ou 4 dans la ville de Tripoli, ils vont faire l'expérience finalement de ce que c'est que être dans une ville étrangère et progressivement en acquérir les codes, savoir s'y débrouiller. Et finalement, cette ville de Tripoli va représenter une espèce d'espace probatoire d'expérimentation et d'autonomisation par rapport à la famille et au camp, mais ça va être aussi le moment d'un apprentissage urbain qui prépare d'autres voyages plus lointains, puisque l'ensemble de ces jeunes ne pensent qu'à une chose, c'est le safar, le voyage, c'est-à-dire de partir en migration vers une ville occidentale, européenne principalement. Et si on pense à où s'établir, c'est plutôt dans une ville occidentale, c'est plutôt à Copenhague, c'est plutôt à Berlin, c'est plutôt à Oslo, là où on a un peu de famille susceptible de nous soutenir dans les premiers temps de notre arrivée. Ce qui est notable et remarquable, c'est que ce safar, cette tension du voyage est tellement ancrée dans ces générations-là qu'elle oblitère le quotidien dans le camp. Et je parlais à ce propos d'une nostalgie du présent, c'est-à-dire que ceux qui sont sur le point de partir sont toujours précisément dans l'anticipation de la disparition de ce qu'ils sont en train de vivre et des choses qu'ils sont en train de vivre dans le camp, ce qui crée une relation temporelle avec le présent qui est tout à fait particulière.
Alors, qu'y a-t-il de pire que ces camps de réfugiés finalement où l'on est pas d'ici et où on ne veut que d'un ailleurs, mais d'un ailleurs qui est extrêmement lointain, qui n'est même pas le retour à la terre palestinienne?
Je nuancerai. C'est-à-dire, on n'est pas d'ici, si. On est d'ici, on est du camp, et le camp est devenu le foyer collectif des habitants.
Mais on n'est pas libanais.
Non, on n'est pas libanais, on cherche pas à l'être, mais vous savez, on peut dissocier l'autochtonie de l'origine. Les récits d'origine sont rarement des récits d'autochtonie. Ce qui veut dire qu'on peut être d'ici tout en étant d'ailleurs, et c'est ça que les Palestiniens du Liban tentent de faire avancer comme idée, comme les Arméniens. Après tout, il y a des Arméniens libanais qui sont arrivés dans les années 20, qui sont très bien intégrés. Donc le problème n'est pas tant d'on est ici ou pas d'ici. Ils sont là depuis plusieurs générations. Ils ont construit avec ce pays et le camp quelque chose qui est très fort et qui est leur identité avec la Palestine comme référent. Mais prenons Israël, tous les Juifs ne résident pas en Israël et Israël est le référent des Juifs. Donc là, c'est un petit peu pareil, ça serait des choses à penser pour décaler un peu les problèmes ou repenser différemment ces problèmes politiques. Et ces jeunes, ce qu'ils ont en tête, c'est quand même d'expérimenter l'altérité dans les espaces libanais, puis d'aller un petit peu plus loin et de construire une vie, de reconsidérer finalement ce que sont les normes d'une vie acceptable. Et là, je parlais à ce propos d'une éthique de la mobilité, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est accéder à une citoyenneté, c'est-à-dire faire partie du monde et être dans le monde. Et quand on est à Tripoli et quand on est dans un établissement, une grande chaîne internationale, ou quand on va à la plage, on fait partie du monde, on rentre dans quelque chose qui est un consumérisme libéral. C'est ça ce qu'on a, c'est comme ça qu'on participe aussi à la marche du monde. Et le voyage n'est pas un voyage touristique, c'est un voyage à visée citoyenne.
Merci Nicolas Puig, anthropologue à l'Institut de recherche sur le développement. On peut retrouver des éléments de votre recherche dans un livre, Jeunesse arabe, publié l'an dernier aux éditions La Découverte.
Merci.
Bien que des femmes soient de plus en plus nombreuses à accéder à des postes de responsabilité dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, elles restent encore largement sous-employées. Un exemple, en Égypte, il n'y a que 23% de femmes actives contre 78% d'hommes. Les femmes travaillent le plus souvent dans les secteurs informels et pour devenir chefs d'entreprise, elles doivent surmonter de nombreux blocages culturels. L'accès à la propriété est l'un d'entre eux. Ariane Gaffuri, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Journaliste économique à la rédaction de RFI, vous avez assisté à la conférence sur l'autonomisation des femmes organisée par l'Union pour la Méditerranée à Barcelone fin mars et vous y avez rencontré des femmes qui œuvrent pour réduire les inégalités dans leur pays, en Jordanie, en Tunisie, au Maroc.
Oui, tout à fait, Eric. La tendance en Jordanie illustre assez bien la réalité des femmes dans la région. On écoute Basma Asrat, directrice générale du Fonds national pour le SIDA en Jordanie.
The participation of Jordanian women in the labor force is very low.
La place des femmes dans le milieu du travail est très faible en Jordanie, seulement 14%. Bien que nous soyons très nombreuses à faire de hautes études, l'idée de créer notre propre entreprise ne fait pas partie de notre culture. La plupart des femmes préfèrent travailler pour un gouvernement ou pour une société, mais à temps partiel, dans des domaines où le risque et le degré de responsabilité ne sont pas très élevés.
Mais poursuit Basma Asrat, les mentalités sont en train d'évoluer dans le pays, surtout chez les jeunes.
Il y a eu des évolutions conséquentes dans la Tunisie de l'après Ben Ali, puisque la parité est désormais, depuis janvier 2014, inscrite dans la Constitution.
Oui, mais le texte est une chose et la réalité une autre. Une femme sur trois est au chômage en Tunisie et sur les 18 000 entreprises créées par les femmes, la moitié ne trouve pas de financement. Samira Merai, députée à l'Assemblée nationale constituante, nous dit pourquoi.
Vous voulez prendre donc un crédit bancaire, il faut une garantie en nature. Et les femmes, généralement, elles ne sont pas propriétaires, sauf du projet. Et le projet donc ne suffit pas pour avoir donc des fonds. Et donc il y a une inégalité à l'accès du crédit entre hommes et femmes. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des fonds de garantie qui favoriseraient les crédits pour les femmes.
Pourtant, le droit islamique protège les femmes, comme l'explique Neila Chaban, secrétaire d'État à la femme et à la famille en Tunisie.
La femme chef d'entreprise, elle est propriétaire et il n'y a pas d'interférence avec le conjoint. Et même en cas de transmission de l'entreprise, la jeune femme hérite avec les autres membres de la famille. Bien sûr, lorsque les héritiers sont frères et sœurs, le frère hérite le double de la part de la sœur, mais quand la fratrie est constituée uniquement de filles, et ça c'est une spécificité du droit tunisien, les filles héritent de la totalité du patrimoine de leur père ou de leur mère.
Mais est-ce que les femmes font valoir leurs droits, Ariane ?
Eric, rarement, puisque les hommes gardent la main sur leurs revenus. Écoutons la directrice du Centre arabe pour la formation et la recherche, Soukaina Bouraoui.
Le problème, c'est pas le droit, c'est le fait, c'est la pratique. Quand vous avez des hommes qui se comportent en macho, les femmes n'accèdent pas. Mais c'est pas un problème de droit. Et on confond le droit et le fait. Et comme dans nos pays, on est sous-développé, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des pays démocratiques, le problème, c'est comment accéder à la connaissance du droit et après comment le mettre en œuvre. Et je crois que le cœur de tous les problèmes, c'est le problème de la bonne gouvernance.
Alors, une note d'espoir tout de même, Ariane, puisque selon la Banque mondiale, les femmes possèdent 20% des entreprises de la région.
Et Fatima Zahra Oukacha en est un bel exemple. À 34 ans, elle a créé SID Maroc, une ONG qui aide les entrepreneurs à se lancer dans les affaires.
Je suis passée par toutes les galères possibles et imaginables. Je suis passée par deux faillites avant que ça commence à marcher. Mais j'ai toujours été très active dans les associations et dans l'écosystème entrepreneurial. Et j'ai vu que les hommes passaient par les mêmes galères que moi. C'est pas parce que je suis femme que je manquais de compétences. Tout le monde manque de compétences. Les problèmes, ils seront toujours là. Après, c'est ça la magie des entrepreneurs, c'est que les problèmes pour nous, ce sont des opportunités d'amélioration et de création de richesses.
Et 25% des inscrits à SID Maroc sont des femmes, toutes de grandes utilisatrices des technologies de l'information.
Merci Ariane Gaffuri, journaliste au service économie de la rédaction de RFI.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem, où nous attendent Alexandre Boutchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alexandre, la situation en Syrie refait la une des journaux panarabes et c'est une fois de plus le mouvement extrémiste de l'État islamique en Irak et au Levant qui fait parler de lui.
Oui, le fameux Daesh, comme on l'appelle en arabe, qui a lancé une vaste offensive sur la région de Al-Boukamal, qui est à la frontière syro-irakienne, et l'objectif, selon les journaux arabes, est d'assurer ses arrières, c'est-à-dire Kabul Kamal est la porte de la province irakienne, Al-Anbar, qui est le fief de Daesh en Irak. Alors les journaux indiquent de plus que Daesh recrute des djihadistes jusqu'aux États-Unis, comme selon un journal l'a démontré un attentat suicide à Bagdad. Et puis, selon le journal Quds Al-Arabi, Daesh aurait fait prisonnier au cours de cette offensive deux officiers, l'un iranien et l'autre russe. Le même mouvement aurait, toujours selon le même journal, exécuté un journaliste de la chaîne qatarienne Al Jazeera.
Alors, en Israël, Michel Paul, rien ne va plus pour le processus de paix.
Oui, c'est le sujet principal qui revient à la une de la presse israélienne après les propos du secrétaire d'État américain John Kerry qui a accusé Israël d'être responsable du capotage des négociations. « Tout n'est pas perdu », proclame Arrive, désormais magazine hebdomadaire. Un dernier effort américain pourrait permettre une sortie de crise d'ici la Pâque juive, lundi soir prochain donc. Et selon le journal, la solution inclurait la libération de l'espion israélien Jonathan Pollard. En tout cas, selon un éditorialiste, s'il n'y a pas d'accord avec les Palestiniens, il faudra de toute façon trouver un arrangement, mais cela se fera au détriment des Palestiniens, conclut le journaliste. Israël a décidé d'une série de sanctions à l'égard de l'autorité palestinienne, mais la presse se penche plutôt sur les conséquences politiques de la crise en Israël même. Plusieurs journaux titrent sur les menaces du parti du foyer juif, l'aile droite de la coalition gouvernementale. Si des détenus arabes israéliens sont libérés, eh bien, nous quittons la coalition, proclame le leader de ce parti, Naftali Bennett. Nous ne vous retenons pas, réplique-t-on de l'entourage du Premier ministre Benjamin Netanyahou.
Et puis Michel, le torchon brûle en Cisjordanie, mais pour une fois, entre colons et militaires israéliens.
Oui, c'est l'autre sujet qui retient l'attention. Des affrontements violents entre les habitants de la colonie de peuplement extrémiste de Yitzhar, dans le nord de la Cisjordanie, et des militaires israéliens. Les colons ont notamment détruit une position de l'armée. Plusieurs jeunes colons ont été arrêtés. Un commentateur fait remarquer que lorsque ce sont les colons qui s'en prennent à la population palestinienne, la police ne trouve jamais, ou presque, les fauteurs de troubles.
Oui, autrement dit, deux poids, deux mesures. Alexandre, la lutte pour le pouvoir qui déchire le monde arabe, à commencer par la Syrie, est la plus meurtrière de l'histoire. C'est le verdict définitif d'un éditorialiste du journal Al-Sharq Al-Awsat.
Oui, tout à fait. Il estime que c'est pire que l'invasion mongole ou les attaques des Tatars. Alors, il se livre à une énumération des pays où la lutte pour le pouvoir bat son plein. Évidemment, la Syrie arrive en tête avec plus de 150 000 morts en 3 ans. Et puis, il y a le Soudan avec une guerre civile au Darfour. Et puis, les combats entre le Sud et le Nord, sans oublier les combats Sud-Sud. Et dans son classement, le journaliste intègre l'Irak où il y a des milliers de morts qui sont tombés après la fin de l'occupation américaine. Puis vient le Yémen qui, selon l'éditorialiste, est lui aussi en proie à un début de guerre civile. Et il y a la Libye où des dizaines de milliers de morts sont tombés depuis le soulèvement contre Kadhafi. Et enfin vient l'Égypte avec quelques 2000 morts depuis la destitution du président frère musulman Mohamed Morsi en juillet.
Alexandre, la presse arabe s'intéresse aux préparatifs de l'élection présidentielle qui doit se tenir, rappelons-le, en Égypte les 26 et 27 mai.
Oui, et la grande question qui revient dans la plupart des journaux, c'est de savoir si le gouvernement intérimaire pourra rester impartial. Le candidat de gauche, Hamdine Sabahi, lui, se plaint déjà de pressions qui seraient exercées contre certains de ses partisans lors de la récolte des 25 000 signatures qui sont nécessaires pour déposer une candidature officielle. C'est peut-être la raison, selon des journalistes, qui a poussé le Premier ministre à limoger le gouverneur des Oasis, un gouverneur qui avait ouvertement exprimé son soutien au maréchal Sisi.
Alors, un sondage de popularité pour la classe dirigeante israélienne, Michel Paul, verdict ?
Oui, ce sondage est publié par le quotidien Haaretz. C'est en tête des personnalités populaires et de loin le chef d'état-major et aussi le président Shimon Peres, mais très loin derrière le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui fait plus de mécontents que de satisfaits. Et en queue de peloton, le ministre des Finances, Yair Lapid, qui lui bat les records d'impopularité.
L'aviation privée est en pleine croissance dans le monde arabe. Alexandre, c'est ce que rapporte le journal Al-Ayat.
Oui, selon le journal, il y aurait près de 500 avions qui vont des Airbus et autres Boeing aux jets privés, avec une croissance annuelle de l'ordre de 10%. Alors une flotte qui comprend des compagnies aériennes privées, mais aussi des avions appartenant à des hommes d'affaires, des princes ou même des artistes. Et c'est ainsi que l'on a vu ces derniers jours dans la presse les photos du jet privé d'une chanteuse du golf. Il ne manquait plus que la baignoire dorée sur les photos.
Alors, pour conclure cette revue de presse régionale, Michel Paul, votre photo du jour.
Et c'est la photo de Carla Bruni-Sarkozy qui doit donner un concert en Israël et qui a accordé une série d'interviews à la presse israélienne.
Voilà, qui nous permet de terminer sur une note glamour. Merci messieurs, merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission. Je voudrais également vous signaler ce documentaire exceptionnel sur la chaîne de télévision franco-allemande Arte. Depuis 6h ce matin et jusqu'à 6h demain, la chaîne diffuse en temps réel 24h Jérusalem, émission qui permet aux spectateurs de suivre 90 habitants dont les histoires personnelles se mêlent à celles de la ville. Spectateur qui est invité à participer à l'émission en envoyant des petites vidéos de 6 secondes maximum sur Twitter via le hashtag 24h Jérusalem. En attendant, bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.